Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux, pour la première, toute première émission de l'année 2022, puisque oui, c'est fait, on est passé en 2022. Personne ne l'ignore, ça j'imagine. Donc, tous nos voeux
à... Alors, on va leur dire à tous nos auditeurs...
Tous nos voeux de bonne année, et heureuse année.
Très belle année.
Et surtout de ne pas oublier toutes les mobilisations et tous les combats pour les droits humains, parce qu'on est là pour ça, effectivement. Et ce soir,
autour
des micros, pour vous souhaiter la bonne année, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir, bonne année à tous.
Voilà. Donc, deux fois par mois, hein, cette année, on continue sur le même rythme, hein, deux fois par mois, sauf pendant les mois d'été, bien sûr, pour le mardi soir, pour traiter des actions et des dossiers que instruit Amnesty pour la défense et la promotion des droits humains. On est là depuis des années et des années, et c'est pas prêt de s'arrêter, on peut le penser. Voilà, donc pour commencer l'année, on va pas vous envoyer des vœux de la secrétaire internationale d'Amnesty qui s'appelle Agnès Callamard, mais elle a publié une interview et dans la presse et qui a été reprise sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Et moi, je vais jouer les journalistes en posant les questions et c'est Edith qui va prêter sa voix à Agnès Callamard pour vous apporter ses réponses. Bon, c'est une petite précision, ce qu'on va vous lire c'est pas l'article tout à fait complet. L'article tout à fait complet, vous l'avez sur le site de La Croix l'Hebdo. C'est paru la semaine dernière, donc si vous êtes lecteur de La Croix l'Hebdo, vous avez l'intégralité de l'interview. Voilà. Donc, première question adressée à Agnès Callamard. Experte des droits de l'homme depuis plus de 20 ans, vous avez récemment quitté votre poste de rapporteuse spéciale de l'ONU. À l'aune de votre expérience, quel bilan faites-vous de l'état du monde ?
Le contexte actuel est extrêmement inquiétant. Et je me demande souvent si nous parviendrons à préserver la paix mondiale. Les institutions nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale fonctionnent très mal. Le Conseil de sécurité ne joue plus son rôle à cause du droit de veto et de la polarisation de la rivalité entre les superpuissances. Les signaux sont rouge écarlate, que ce soit la crise climatique, la crise des démocraties, les inégalités croissantes, les mouvements de population. L'écosystème de la communication est chamboulé par Internet et l'intelligence artificielle, une révolution industrielle qu'on ne contrôle pas. Même les valeurs des droits humains sont rejetées par une grande partie de ceux qui ont le pouvoir et de ceux qui les suivent.
À quoi pensez-vous plus précisément ?
Nous sommes dans une situation de crise des normes qui se traduit par des attaques contre la dignité humaine et même contre l'idée même d'égalité entre êtres humains. La mort de réfugiés et de migrants est devenue monnaie courante. Presque quelque chose d'acceptable, comme si leur vie avait moins de valeur que la nôtre. La crise aiguë que nous traversons pourrait conduire nos sociétés à des situations de type 1939. Et je m'interroge souvent, serons-nous la génération des années 1930 ou celle des années 1948 qui a rédigé la Déclaration universelle des droits humains ?
Quelles sont les raisons de croire en la deuxième option ?
Je sais que nos sociétés ont des forces. On l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, avec MeToo, avec les manifestations en Biélorussie et au Soudan, où les protestataires défendent leurs valeurs humanistes au péril de leur vie. Serons-nous capables de prendre exemple sur eux ? Pourrons-nous les aider ? Je ne sais pas. Mais cela me donne espoir, un espoir qui se nourrit aussi de ces gens qui vont chercher les migrants dans les montagnes pour les sauver, de ces jeunes qui se rebellent contre l'évolution extrêmement destructrice de la planète, reste à catalyser toutes ses forces.
D'une manière plus large, Amnesty prend position sur des problématiques sociales comme le mariage pour tous ou la défense de l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Il y a 20 ans, vous ne portiez pas ces combats. Pourquoi les mener aujourd'hui ?
À partir du moment où l'on reconnaît le droit de la famille et celui de l'égalité entre individus comme des principes universels, le mariage pour tous ne fait pas l'objet de grandes discussions juridiques. Cela peut déclencher un rejet à l'échelle d'un État pour des raisons culturelles, politiques ou religieuses, mais le droit international, lui, ne peut apporter qu'une réponse. Tout être humain devrait être sur un pied d'égalité dans le fait de pouvoir fonder une famille. Concernant l'IVG, l'accès à des services d'avortement sûrs est à nos yeux un droit fondamental. Chacune doit être libre d'exercer son autonomie corporelle et de prendre ses propres décisions concernant la procréation.
Mais ne craignez-vous pas de nourrir la critique sur l'Occident qui cherche à imposer ses valeurs ?
Ce ne sont pas seulement des questions occidentales. L'Inde et le Pakistan ont reconnu l'existence d'un troisième sexe, contrairement à la France. Le mariage pour tous est présent dans de nombreuses constitutions sud-américaines, mais aussi en Asie. On ne peut pas résumer ce qui se passe à l'ère actuelle en un conflit culturel entre le Nord et le Sud. Les États-Unis sont à la fois source de mouvements pour l'égalité et la source des rejets extrêmement vifs et violents. Le droit à l'IVG y a été reconnu très tôt et il recule aujourd'hui. Preuve qu'aucun droit n'est fixé dans le temps. C'est aussi en Pologne et en Hongrie que les groupes contre les théories de genre ont pris de l'ampleur.
Mais est-ce vraiment à une organisation telle que la vôtre de défendre le mariage pour tous ? Votre spécificité n'est-elle pas de lutter pour toutes les personnes persécutées au nom de leur opinion ?
Lorsqu'Amnesty ne prend pas position sur telle ou telle question de droit, elle crée une hiérarchie dans l'esprit des gens, voire donne l'impression que certains droits n'existent pas, ce qui lui a été reproché dans le passé. Mais on ne va pas faire campagne pour le mariage pour tous.
Après la chute de l'URSS, en 1991, le monde donnait l'impression d'entrer dans une ère de démocratie et de liberté. L'inverse semble finalement se produire. Comment analysez-vous la critique croissante des droits de l'homme ?
C'est lié au modèle économique. La mondialisation néolibérale s'est traduite par des délocalisations, des pertes de revenus, une plus grande difficulté à trouver des emplois, l'accroissement des disparités, autant de bouleversements qui génèrent énormément d'angoisse. Ce climat pousse les gens à chercher des solutions faciles dans l'ordre et dans la stabilité. Et dans ce genre de situation, ce sont des hommes forts, les dictateurs, qui sont favorisés. Ils apportent des solutions simplistes à des problèmes complexes, trouvent des boucs émissaires et rejettent tout ce qui est étranger ou est perçu étranger à la culture. Rien de nouveau là aussi. Notons par ailleurs que les populistes comme Donald Trump ne rejettent pas les droits individuels. Ils se posent en victimes de ces violations, ce qui est beaucoup plus sophistiqué comme méthode.
Au nom de la liberté contre le terrorisme, on a beaucoup renié les libertés.
Il s'agit d'une évolution sur 20 ans qui est extrêmement inquiétante. La lutte contre le terrorisme demande des mesures appropriées, car c'est une menace. Mais les mesures que l'on prend devraient être ponctuelles, proportionnelles, avec une fin progressive. Or, on en fait le contraire. On a créé un cadre d'urgence qui a restreint les libertés, association, expression, puis on l'a institutionnalisé.
Institutionnalisé, c'est ça. Donc voilà, c'était donc un extrait de cette interview. Vous retrouverez, comme on vous l'avait dit, le texte complet dans l'hebdo La Croix du 7 janvier dernier, donc c'est tout récent. N'hésitez pas effectivement à le lire, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont tout à fait intéressantes. Et Agnès, qui est une personne extrêmement compétente de par ses différentes, ses différentes formations et ses différents engagements, que ce soit à l'ONU ou au sein d'Amnesty International, est quelqu'un qui a effectivement une grande, grande compétence par rapport à tous ces sujets. Donc on aura l'occasion d'y revenir.
Voilà, moi je trouvais qu'en ayant lu le texte, que c'était une bonne analyse de ce qui se passe actuellement et des risques et des dérives et aussi du fait que ça nous donne envie de continuer à défendre les droits humains avec cette analyse mondiale-là.
Et moi, j'en ai retiré l'impression, en lisant effectivement son interview, que c'est pas parce que, comme elle le dit au début, que la situation est au rouge écarlate, c'est-à-dire que on a beaucoup de raisons de s'inquiéter sur la remise en cause des droits, que c'est pas du tout de raison pour baisser les bras, bien au contraire, parce que de toute façon, effectivement, comme dit l'autre, c'est si on mène un combat qu'on n'a pas grand mérite à gagner, c'est moins valorisant que si c'est compliqué à le gagner. Donc voilà. Et en parlant de combats que l'on gagne, ça nous fait l'enchaînement tout de suite, on a une très bonne nouvelle en ce début d'année. On avait dû parler dans les émissions de l'année dernière, alors je ne sais plus laquelle, je n'ai pas été revérifié sur les podcasts, mais du combat que l'on menait, c'est même sûr qu'on en avait parlé, du combat que l'on menait pour la libération d'un défenseur des droits humains égyptien qui s'appelle Rami Chatt, qui était en prison depuis plus de 2 ans. Et c'est quelqu'un pour lequel Amnesty s'est beaucoup investi pour sa libération. Le groupe d'Evreux avait, lors de sa dernière foire aux livres en juillet dernier, fait signer des pétitions, fait signer des lettres de soutien, etc. Et aussi avait fait une pétition photo qu'on a envoyée au comité de soutien qui nous avait remercié. Donc on a participé à cette action-là et on a appris au début du mois de janvier, là le 8 pour être précis, donc c'est tout récent, que Rami Chatt est libéré. Donc je vais vous lire simplement rapidement un petit communiqué qui a été fait par Amnesty par rapport à sa libération. Donc Rami Chatt est libre, c'est par ces mots prononcés par son épouse Céline que nous avons appris la libération de Rami Chatt, fervent défenseur des droits humains. Il était détenu arbitrairement en Égypte depuis juillet 2019 dans un contexte de répression de la société civile par les autorités égyptiennes. Ce 8 janvier marque donc la fin d'un enfer pour Rami. Rami Chatt est arrivé en France dans l'après-midi, c'était samedi. Il y a enfin retrouvé son épouse, Céline, et ses proches. Nous étions, dans cette Amnesty Paris qui parle bien sûr, nous étions au comité d'accueil à l'aéroport Charles de Gaulle. Impatience, excitation, émotion. Le moment arrive, les portes s'ouvrent. Rami apparaît enfin avec sa femme, se tenant main dans la main en un poing levé. Des cris de joie les accueillent. Avec un grand sourire, il prend la parole. « We made it, on l'a fait. » Rami Chatt est libre. Alors il a dit « Je veux remercier les milliers de personnes qui m'ont envoyé des messages. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait une différence quand on est enfermé quelque part et qu'on reçoit une lettre, un dessin, une photo qui dit qu'on se souvient de toi, qu'on te soutient, qu'on t'attend dehors. Ce serait trop long de remercier maintenant cette femme, c'est toujours lui qui parle, qui est à mes côtés. Elle a bougé des montagnes pour moi. Je pouvais sentir son amour à chaque seconde, peu importe le lieu de détention où j'étais. Elle m'a fait sortir. » Pour Rami et sa famille, c'est le temps des retrouvailles et du repos. Pour nous, c'est celui des remerciements. Cette victoire, donc c'est toujours Amnesty qui parle, cette victoire, nous vous la devons. Plus de 2 ans de campagne pour obtenir la libération de Rami. 2 ans de détention arbitraire dans des conditions très dures. Renouvelée plus de 30 fois, mais 2 ans de mobilisation croissante. Notre engagement a été constant et tenace. La pression n'a jamais faibli. De mois en mois, la mobilisation a pris de l'ampleur en France et dans d'autres pays comme en Espagne, en Belgique, aux États-Unis ou en Palestine, portée par l'épouse de Rami. Citoyenne française, Céline avait été expulsée illégalement d'Égypte par les autorités au moment de l'arrestation de son mari en 2019. Et donc à ses côtés, nous nous sommes battus pour la libération de Rami. Merci aux personnes qui se sont engagées sans relâche dans ce combat. Alors ce que nous avons fait, nous avons interpellé à maintes reprises les autorités égyptiennes, mais aussi les autorités françaises pour que des leviers diplomatiques soient activés. Nos militants ont envoyé des messages de solidarité par centaines, messages qui l'ont aidé à tenir moralement, enfermé dans sa cellule de 25 mètres carrés avec 15 autres détenus. Une pétition internationale a recueilli plus de 100 000 signatures en France et a été remise aux autorités égyptiennes. Pendant des mois, le hashtag Free Ramishat a circulé sur les réseaux sociaux. 182 élus français ont appelé le président égyptien à le libérer. Des événements ont été organisés dans plusieurs villes de France. Toutes ces actions ont joué un rôle déterminant dans la libération de Ramishat. Merci à tous et à nos équipes qui, aux côtés de Céline, ont œuvré chaque jour à la libération de Rami, permettant notamment de porter son cas auprès des décideurs politiques et dans les médias. Voilà. Bon, après, l'article continue effectivement avec différentes formes de remerciements, mais c'est tout à fait, je vous l'ai lu parce que c'est tout à fait symbolique du genre d'action que l'on mène, et nous, on est très contents au niveau du groupe d'Evreux d'avoir très modestement, mais on l'a fait, participé à toutes ces actions de réclamant sa libération. Voilà. Donc, Ramishat est à Paris avec son épouse. Le seul ombre au tableau, c'est que pour sa libération, il avait la double nationalité égyptienne et palestinienne, puisque sa mère est égyptienne et son père est palestinien, et il a dû accepter de renoncer à sa nationalité égyptienne pour pouvoir retrouver la liberté. Donc Amnesty proteste contre cet abus de pouvoir des autorités égyptiennes, mais c'est à ce prix-là, effectivement, qu'il a pu sortir de prison. Donc voilà.
Mais ça dit bien que pour l'Égypte, où je pense que la publicité de la libération a été beaucoup moins importante qu'on l'a vu à la télé, et c'est aussi la façon de virer une fois de plus un défenseur des droits. Quoi. L'Égypte est quand même.
Tout à fait. Et il faut aussi, ça me traverse l'esprit, il faut aussi citer dans les gens qui sont intervenus pour lui, malgré tout, parce que c'est vrai, une intervention de Emmanuel Macron qu'il a faite quand il a reçu le président égyptien, où il a effectivement signalé que Ramishat devait être libéré devant le président. Moi, j'ai vu la vidéo. Donc, au moins, ça, il l'a fait. Voilà. On va passer d'Égypte au Qatar, je crois,
oui,
avant la première pause musicale.
Quelques
mots sur le Qatar.
Voilà, sur le Qatar. Alors, le Qatar, ça fait penser à quoi? Qatar,
bon, je sais pas,
cette année.
Je suis pas très footeux, donc ça me fait penser à pas grand-chose.
Mais ça fait penser au foot. Eh bien, vous savez qu'on en parle déjà depuis un moment, puisque le Qatar s'est préparé à cette super manifestation. Oui, c'est tout à fait génial d'aller faire du foot dans un pays où il fait très chaud. Mais bon, ça, c'est autre chose. La fédération a accepté que ça
soit...
Mais
ils vont payer la clim. Oh,
mais oui, non, mais c'est très écologique. Bon,
mais
enfin,
oui.
Voilà. Mais enfin, c'est le foot. Eh bien, Amnesty a un petit peu fait preuve de mauvaise humeur. Voilà l'article que je vous parlais. Donc, commence par « Voilà ce qui se passe quand on ne nous écoute pas. On monte d'un cran. Nous avons alerté plusieurs fois la Fédération française de football, la FFF, sur les situations dramatiques que vivent des travailleurs et des travailleuses migrants qui sont exploités sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. » En vain. Face à ce silence insupportable, une petite visite s'imposait. Ce qui s'est passé le 15 décembre dernier, où les membres du groupe d'Amnesty ont déployé une immense bâche sur le siège de la fédération pour siffler sa faute et la mettre face à ses responsabilités. Alors, sur la bâche, vous pouvez la regarder sur le site d'Amnesty, était écrit « Des milliers de morts » et la fédération ne siffle toujours pas. Oui, car depuis 2010, des milliers de travailleurs migrants sont décédés au Qatar. Des milliers d'autres continuent à vivre encore un véritable enfer. Confiscation de passeports, travail sous 40 degrés sans limite d'horaire, rétention de salaire, menace. Alors, il y a bien eu, parce que ceux qui nous suivent attentivement, en 2017, on a déjà parlé du Qatar, il y a eu des pétitions. Donc, quand même, le Qatar a fait quelques réformes de façade pour redorer son image, mais les conditions de travail restent inhumaines pour les travailleurs migrants dans ce pays. Et ce qu'Amnesty voudrait bien, c'est que la responsabilité de la fédération... soit un petit peu aussi mise en avant, car c'est bien les fédérations de foot du monde, la française et d'autres, qui sont les demandeurs de ce beau chantier, puisqu'ils ont accepté que le Qatar soit l'endroit où il y aura cette grande manifestation de foot. Donc, ce qui est demandé, il y a aussi une petite pétition qui passe sur Amnesty encore et qui est tout à fait faisable pour tous les sportifs que vous connaissez. Cette pétition qui demande effectivement que la fédération reconnaisse sa responsabilité dans cette situation de non-droit et qu'elle puisse elle aussi faire bouger un petit peu les Qataris. Donc, amis footballeurs, amis sportifs, amis d'amis footballeurs, allez faire signer cette pétition et peut-être que dans l'année qui vient, il y aura des modifications sur les conditions de travail de tous ces pauvres immigrés pour le plaisir du sport.
C'est ça. C'est encore une fois, Amnesty ne prend pas position pour ou contre le football, ça n'aurait aucun sens, mais il n'y a pas de raison pour que les abus des... aux droits humains fondamentaux qui sévissent au Qatar par rapport aux gens qui travaillent pour la Coupe du Monde, il n'y a aucune raison pour qu'on se taise par rapport à ces violations. Voilà.
Voilà, il y a même quelques sportifs qui parlent un petit peu plus, qui se demandent si ça vaut le coup d'aller au Qatar. Ça, c'est un autre débat. Je vous le laisse mener chez vous.
Tout à fait. On va passer à la première pause musicale et on se retrouve juste après.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papiers, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme: se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Yeah.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission. Et on vient d'écouter HK et les saltimbanques, on lâche rien. Je trouvais que pour ce début d'année, effectivement, c'était une belle... C'est des promesses de début d'année qu'on se fait, c'est ça?
Donc, ouais, c'est pour de fin d'année aussi, on se l'était fait. Hein.
C'est
donc,
ça.
Tout à fait. Ça continue.
Tout à fait.
Donc, c'est bien pour le foot, moi je trouve qu'il pourrait... Voilà.
Voilà. Oui, on lâche rien, c'est ça. Mais donc, il y a Clearly, qu'on n'a pas encore entendu depuis le début de l'émission.
Mais je pense qu'il faut dire à nos auditeurs qu'on a été complètement à l'heure.
Ça va pas continuer si vous commencez.
Mais oui, mais non, mais c'est quand même beau. C'est un beau début d'année pour l'équipe.
C'est vrai.
Attends, on va voir si on rend l'antenne à l'heure.
On va essayer. On va être très très bon cette année.
On était dans les temps pour la première pause musicale, mais restons prudents.
À Clearly's.
Donc à Clearly's, bien sûr.
Eh bien, je vais vous parler une nouvelle fois. Je l'avais déjà un petit peu abordé, il me semble, en novembre.
L'année dernière.
Ouais. La crise en Pologne et à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie. Donc, c'est l'horreur aux frontières de l'Europe. Et donc là, je vais commencer par un article d'Amnesty qui est paru sur le site le 20 décembre. Et je vais continuer après avec un article de Médecins sans frontières qui continue sur le même sujet et que je trouve alarmant. Donc depuis octobre 2021, quelques milliers de personnes exilées sont prises au piège à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. 75 d'entre elles ont accepté de témoigner des maltraitances qu'elles ont subies de part et d'autre de la frontière. Et ce sont des témoignages bouleversants. Pendant des semaines, les autorités ont tout fait pour limiter l'accès à cette frontière, pour cacher le drame qui s'y jouait. Les équipes d'Amnesty ont finalement réussi à recueillir les témoignages de 75 personnes, attirées au Bélarus par la promesse trompeuse d'un passage facile dans l'Union européenne, affamées, volées, frappées à coups de matraque, de crosses de fusil, forcées à traverser des rivières glacées, menacées par les chiens de garde. Des deux côtés de la frontière, un même constat, elles vivent dans des conditions inhumaines. Côté Bélarus, brutalité, mauvais traitement, extorsion. Talal, un ressortissant syrien, a été conduit avec environ 80 personnes à bord d'un camion militaire pour faire le trajet de Minsk jusqu'à la frontière polonaise. À son arrivée, face à lui, se dressaient une dizaine de soldats bélarussiens avec des chiens. Ils nous ont dit qu'ils allaient lâcher les chiens et que si on ne courait pas assez vite, ils allaient nous mordre. Les soldats nous ont couru après en frappant à coups de matraque les personnes qui ne couraient pas assez vite. Après nous avoir poursuivis sur environ 200 mètres, les soldats ont fait demi-tour, nous abandonnant dans la zone tampon, dans les bois. Des familles se sont retrouvées séparées, les gens qui avaient été mordus par les chiens saignaient. Sur le terrain, une zone d'exclusion clôturée s'est formée le long de la frontière entre le Bélarus d'un côté et la Pologne, la Lettonie et la Lituanie de l'autre. À l'intérieur, les personnes sont escortées jusqu'à des points de rassemblement. Plus personne ne peut s'échapper. Les demandeurs et demandeuses d'asile restent là, pris au piège pendant des jours, voire des semaines, dans des conditions inhumaines. Régulièrement, les autorités bélarusses les poussent à traverser de l'autre côté, en Pologne. Sous la menace des chiens, des femmes, des hommes, des enfants doivent risquer leur vie et traverser à pied des cours d'eau glacés. Une famille kurde originaire de Syrie y a passé 20 jours. Le père revient sur le calvaire qu'ils ont vécu. Il dit « Par moments, nous étions au bord de l'évanouissement. Nous avions faim, nous avions soif et nous ne pouvions obtenir aucune aide, ni des soldats polonais, ni des Bélarussiens. » Côté polonais, le droit d'asile est bafoué et des renvois forcés illégaux sont observés. Donc malheureusement, de l'autre côté, en Pologne, le calvaire continue. La plupart des personnes interviewées par Amnesty qui ont réussi à franchir la frontière et à passer en Pologne ont été immédiatement renvoyées par les soldats polonais. D'autres ont réussi à passer entre les mailles du filet, mais n'ont gagné que quelques jours. Des jours de marche, sans nourriture ni abri, dans le froid glacial de l'hiver, avant d'être rattrapé par les autorités. Cet homme, appartenant à la communauté yézidi irakienne, a été arrêté par les forces polonaises environ une heure après avoir passé la frontière. Immédiatement arrêté, il a été reconduit avec un groupe de personnes jusqu'à une rivière marquant la frontière entre le Bélarus avec le Bélarus. La rivière ne faisait que 10 à 15 mètres de large, mais elle était profonde et il y avait beaucoup de courant. Ils nous ont fait descendre de force des véhicules et ils nous ont poussés à l'eau. Ceux qui hésitaient étaient frappés à coups de matraque. Ils avaient également des chiens. Les femmes et les enfants, ainsi que quelques hommes, ont été emmenés ailleurs. J'ai vu un homme se faire emporter par le courant, et si on ne savait pas nager, on se noyait. Pourtant, le principe de non-refoulement est clair. Les autorités ne doivent pas renvoyer de force un individu dans un autre pays ou territoire où celui-ci risque d'être victime d'actes de torture ou plus généralement de mauvais traitements. D'après notre enquête, la Pologne viole donc le droit international, mais aussi les normes qui en relèvent, notamment l'interdiction de la torture et des autres mauvais traitements. À la frontière, les gens se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Les deux camps jouent à un jeu sordide avec des vies humaines. Jennifer Foster, notre chercheuse chargée des droits des personnes réfugiées et migrantes, dit « Nous avons opposé aux mesures proposées par l'Union européenne, voire encadrées. Ces mesures ont pour objectif de déroger au droit d'asile. Le nombre de personnes exilées qui atteignent actuellement les frontières de Lettonie et de la Lituanie et de la Pologne reste modeste. Des solutions humaines et respectueuses du droit international peuvent et doivent être trouvées. » On ne peut que déplorer la passivité de la Commission européenne face aux atteintes aux droits commises. En dépit des violations des droits humains flagrantes perpétrées par les pays de l'Union européenne, voisins du Bélarus, la Commission européenne n'a pas engagé de procédure juridique visant à faire appliquer le droit. Le 1er décembre 2021, elle a proposé de mettre en place des mesures temporaires qui permettraient à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne de déroger aux règles de l'Union européenne concernant l'asile. Ces pays pourraient retenir les personnes demandeuses d'asile à la frontière pendant 20 semaines au lieu de 4. Une telle mesure pourrait conduire à des détentions arbitraires de facto dans des conditions d'accueil minimales et faciliterait les expulsions. C'est inacceptable et injustifiable. Cette initiative risque par ailleurs d'affaiblir le cadre juridique européen en matière de migration et de droit d'asile et de saper l'engagement pris par les autres pays de l'Union européenne de respecter les règles européennes en matière d'asile lorsque des personnes migrantes et réfugiées se présentent à leurs frontières. Et c'est d'autant plus dramatique, cet article, que la situation, on en parle un petit peu moins dans les médias, mais elle est loin de s'arranger. Et moi, les récits se multiplient en effet par rapport aux brutalités policières, particulièrement côté biélorusse. Et on ignore combien de personnes ont réellement succombé. Il y a beaucoup de familles avec de très jeunes enfants et des femmes enceintes, par exemple, qui restent piégées là-bas. Moi, j'étais alertée aujourd'hui parce que j'ai vu dans la presse un article sur le fait que Médecins Sans Frontières quitte la région de Pologne-Biélorussie, faute d'accès aux exilés menacés par le froid. Donc, je vais vous reprendre un petit bout de l'article de Médecins Sans Frontières. Donc, 3 mois après avoir envoyé une équipe d'intervention d'urgence pour aider les migrants et les réfugiés qui traversent la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, Médecins Sans Frontières se retire, empêché à plusieurs reprises d'accéder à la zone frontalière par les autorités polonaises. Dans cette région boisée, des groupes de personnes survivent dans des températures inférieures à zéro et ont besoin d'une assistance médicale et humanitaire de toute urgence. Depuis octobre, Médecins Sans Frontières a demandé à plusieurs reprises l'accès à la zone réglementée et au poste de garde frontière en Pologne, sans succès, explique Frog Osig, coordinatrice d'urgence de Médecins Sans Frontières pour la Pologne et la Lituanie. Nous savons qu'il y a encore des personnes qui traversent la frontière et se cachent dans la forêt, ayant besoin de soutien, mais nous n'avons pas été en mesure de les aider en Pologne. Médecins Sans Frontières craint que cette politique actuelle de restriction de l'accès aux organisations d'aide et aux groupes de bénévoles n'entraîne la mort d'un plus grand nombre de migrants et de réfugiés. Tant que les acteurs humanitaires non gouvernementaux ne pourront pas atteindre ces personnes pour leur fournir de l'eau, de la nourriture, des vêtements chauds et des soins médicaux, Le nombre de décès augmentera probablement à mesure que les températures continueront à baisser. Depuis le mois de juin 2021, des milliers de personnes ont tenté de rejoindre l'Union européenne en traversant la Biélorussie vers la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. En réponse, la Pologne a construit des clôtures, mobilisé son armée et déclaré l'état d'urgence le long de sa zone frontalière. Cette zone est devenue strictement contrôlée avec accès restreint, y compris pour les organisations humanitaires, les groupes de bénévoles et les médias. Les gardes-frontières polonais ont renvoyé de force migrants et réfugiés vers la Biélorussie au mépris de leur intention de demander une protection internationale. Pas crainte de tels refoulements et de violences de la part des gardes-frontières, des femmes, des hommes, des enfants ont tenté de se frayer un chemin dans la forêt en se cachant par des températures hivernales extrêmes, sans nourriture, eau, abri ou vêtements chauds. Au moins 21 personnes ont perdu la vie dans cette zone en 2021. Ces politiques sont un nouvel exemple de la volonté délibérée de l'Union européenne d'empêcher les personnes de demander l'asile à ses frontières. La situation actuelle est inacceptable et inhumaine. Les gens ont le droit de rechercher la sécurité et l'asile et ne devraient pas être illégitimement repoussés vers la Biélorussie, déclare Frog Osig, coordinatrice de Médecins sans frontières. Bien que le nombre de personnes tentant de rejoindre l'Union européenne ait diminué ces derniers mois, il y a toujours des groupes de migrants et de réfugiés dans la région. L'équipe de Médecins sans frontières a recueilli de nombreux témoignages de violences intentionnelles allant du vol et de la destruction des biens à l'intimidation et à l'agression physique de chaque côté de la frontière. Elle a également constaté des blessures physiques coïncidant avec ces récits. Donc voilà, c'est la situation est loin de s'arranger, parce que je vois l'heure qui tourne, et les migrants et les réfugiés qui ont réussi à se frayer un chemin en territoire polonais au-delà des zones d'accès restreintes ont largement bénéficié de l'aide humanitaire d'organisations non gouvernementales locales, de groupes et de particuliers. Et l'équipe de Médecins sans frontières a apporté son soutien à ces groupes et a également fourni des soins médicaux de base, des soins de santé mentale et une aide humanitaire à un nombre limité de migrants et de réfugiés hors des zones réglementées. Donc, les équipes de Médecins sans frontières ont travaillé en Biélorussie, en Lituanie et en Pologne en réponse à la crise, mais elles n'ont pas réussi à obtenir l'autorisation d'entrer dans les zones frontalières de ces trois pays, malgré des demandes répétées aux autorités concernées. Donc Médecins sans frontières retire son équipe d'intervention d'urgence de la zone frontalière polonaise, mais continuera à travailler en Pologne, où elle est en train d'établir un bureau national dans la capitale Varsovie. Et pendant ce temps, les activités de Médecins sans frontières en réponse à cette crise se poursuivront en Lituanie et en Biélorussie. Voilà.
Ben ça prouve encore une fois que devant la carence des autorités, pour ne pas dire pire, effectivement, la malveillance des autorités des États, c'est encore la société civile, effectivement, qui fait qu'il y a un minimum d'aide et d'entraide qui est apportée dans des conditions qui sont extrêmement difficiles.
Voilà, je tenais à lire cet article parce que je trouve que Médecins sans frontières, sur le terrain, aussi, ils ont une place vraiment de...
Et des témoignages.
Et des témoignages aussi. Et ils font un travail formidable qui est en lien avec les autres organisations et avec les organisations de droits humains. Je trouve lamentable qu'ils soient obligés de se retirer de cette partie du monde.
D'un autre côté, c'est aussi leur faire cette publicité-là pour faire bouger un petit peu les lignes et les informations. Parce que c'est des endroits où on a un reportage, on a un témoignage et après on n'a plus rien. Et comme tu dis, ça continue. Et bon, l'hiver polonais, c'est quand même pas non plus quelque chose de terrible. Et là, c'est vraiment du punching ball entre deux pays en dehors de toute loi humanitaire.
C'est clair. Et ça renvoie aussi d'ailleurs à l'interview de Agnès Callamard dont vous a fait part tout à l'heure, qui dit à un moment que de toute façon, au niveau des droits des migrants, on finira par accepter que les droits sont variables selon les gens et que les droits des migrants, c'est effectivement des gens qui ont moins de droits que les autres. Donc voilà.
Ah là, ils n'ont plus du tout, puisqu'en plus, ils sont utilisés comme...
Je suis d'accord, mais ce qui veut dire, c'est que c'est tout à fait intolérable d'arriver à ce genre de considération, effectivement. Il était prévu que tu parles des yézidis, je crois, Edith, qu'on va être pris par la pendule, mais tu peux quand même en dire quelques mots.
Oui, parce que les yézidis, voilà, c'est pareil, c'est un peuple dont on a entendu parler en 2014, donc ça fait quand même déjà un certain temps, quand l'État islamiste, était tout à fait à lancer une offensive dans la région du Sinjar, pour ce moi le nom ça me rappelait quand j'ai lu l'article, dans le nord de l'Irak, et l'État islamique s'est livré à des massacres de grande ampleur contre la population civile, notamment des tueries, des violences sexuelles, des actes de torture et la réduction en esclavage. Donc plus de 5000 personnes ont été tuées et plus de 400 000 déplacées de leur foyer. Et à ce jour, plus de 2800 femmes et enfants yézidis sont toujours retenus captifs par l'État islamique ou sont portés disparus. Alors, je n'ose pas dire une bonne nouvelle, mais je vais dire un passage quand même de la loi quelque part par rapport à ça, parce que j'ai vu que le 30 novembre 2021, dans le cadre du premier procès du monde concernant le génocide dont étaient victimes les yézidis, le tribunal régional supérieur de Francfort en Allemagne a reconnu Taha al-Ji, alors on a une initiale, je ne sais pas son nom, mais bon, coupable de génocide et de crimes contre l'humanité. Et c'est la première fois qu'un ancien membre du groupe armé se désignant sous le nom État islamique est déclaré coupable de génocide. Alors oui, c'est assez terrible ce que je vais vous lire après, mais bon, il faut aussi donner cette info. Donc l'accusé Taha al-Ji a été reconnu coupable de génocide pour avoir acheté une femme yézidi et sa fillette de 5 ans comme esclave en 2015. Le tribunal régional supérieur de Francfort a déclaré que Taha al-Ji, en tant que membre de l'État islamique, a acheté deux femmes et les a réduites en esclavage dans l'intention d'éliminer la minorité religieuse yézidi. Un jour, l'accusé a puni la fillette yézidi en l'attachant à une fenêtre par une chaleur torride, sans aucune protection contre le soleil, et l'a laissée agoniser sous les yeux de sa maman. Taha al-Ji a par conséquent été déclaré coupable de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Alors c'est dur de continuer après ce témoignage. Alors Meik Olzat d'Amnesty International Allemagne déclare que le jugement historique rendu aujourd'hui confirme pour la première fois dans une salle de tribunal que les actes de l'État islamique contre la minorité religieuse des yézidis dans le nord de l'Irak constituent un crime de génocide. Les victimes qui ont témoigné dans cette affaire ont décrit avec force, détails poignants, le caractère systématique de l'extermination ciblée des yézidis en Irak. 7 ans après le génocide, il est temps d'avancer dans la lutte contre l'impunité pour les crimes commis et de rendre justice aux victimes, a déclaré Paris Ibrahim, victime yézidi irakienne. Mais ce jugement n'est qu'un début. De nouveaux procès doivent suivre afin de faire toute la lumière sur ces graves crimes commis contre ma communauté religieuse. Voilà, alors ce procès est notre Amnesty remarquable sous plusieurs aspects. Il s'agit du premier procès fondé sur le principe de la compétence universelle pour les crimes du droit international commis à l'étranger par un auteur qui n'est pas un citoyen allemand, qui a été extradé en Allemagne sur la base d'un mandat d'arrêt international. Et ça aussi, c'est important.
Oui, tout à fait. C'est un petit peu juridique, mais c'est vrai que c'est la compétence qu'on appelle la compétence universelle, voilà. Donc, et qui est du ressort de la Cour pénale internationale.
Chaque État pourrait se bouger un peu plus et trouver...
C'est
parce
vrai.
Que les réfugiés yézidis, il y en a dans le monde.
C'est vrai. Oui. Mais jusqu'à présent, là, le comportement, je fais un parallèle avec ce qui a été voté en France, mais ça remonte il y a plusieurs années maintenant, sur la compétence universelle, le comportement des autorités françaises a été de limiter les possibilités pour entreprendre ce genre
de
démarche.
C'est pour ça que c'est bien de le dire et que l'Allemagne, eh ben, chapeau pour l'Allemagne à ce moment-là.
C'est ça. On écoute quelques secondes de musique et on se retrouve... Quelques minutes de musique, oui, et on se retrouve juste après.
Smokestacks spitting black soot into the sooty sky. The load on the road brings a tear to the Indian's eye. The elephant
finger on the trigger, let me tell you, gave us quite a scare. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Still is moving to another town, and I don't believe he'll come back. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Well, I don't know how you're taking all the shit you see. You don't believe it. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day.
De retour sur l'antenne de Principes Actifs, donc Amnesty International, on vient d'entendre un morceau de Hills, un groupe américain que j'aime bien. C'était le motif pour lequel j'ai passé ce morceau. Voilà.
Tu as raison.
Et je repasse ta parole tout de suite. Alors, je ne sais plus si c'est Claire-Lise ou Edith, mais c'est une des deux.
Eh bien, c'est moi. C'est pour ça que j'ai commencé à parler. Voilà. Voilà, oui. Ben moi, c'est une... Voilà, comment dire, c'est quelque chose de triste. En même temps, disons, une nouvelle de quelqu'un qui a vraiment bien... bien travaillé toute sa vie pour les droits humains. Donc, vous avez dû entendre que l'archevêque Desmond Tutu est décédé le 26 décembre à l'âge de 90 ans. Donc, Amnesty a récapitulé un petit peu tout ce qu'a fait cet homme pendant sa vie. Donc, le monde perd un défenseur des droits humains zélé. L'archevêque Desmond Tutu a refusé de rester inactif et de regarder l'injustice s'abattre sur le peuple sud-africain sous la coupe du gouvernement de l'apartheid, à une époque où il était risqué de se dresser contre le régime. Il a également défendu les peuples opprimés ailleurs dans le monde, s'exprimant toujours en faveur de leur liberté. C'est ce qu'a déclaré Depros Mouchetta, directeur du programme Afrique de l'Est d'Amnesty. Et la mort de l'archevêque laisse un grand vide dans le combat pour les droits humains et la liberté dans le monde. On se souvient aussi de sa mobilisation pour le peuple opprimé d'Afrique du Sud pendant la ségrégation et l'oppression des Noirs sous le régime de l'apartheid, qui leur refuse des droits fondamentaux tels que la liberté d'association, de mouvement et de réunion. Mais il fut aussi, l'archevêque, un fervent partisan du travail d'Amnesty en faveur des droits humains. Il a soutenu la campagne sur le traité sur le commerce des armes, un traité international qui fixe des règles mondiales en vue de stopper le flux d'armes. Il a également fait campagne avec Amnesty en août 2012 en faveur de la libération des prisonniers politiques en Birmanie, dont Aung San Suu Kyi. L'archevêque Desmond Tutu a consacré sa vie à garantir la justice pour tous. Il appelait de ses voeux un monde où tous coexisteraient dans la paix et l'harmonie, sans aucun préjugé. Et il est l'archétype du combattant altruiste des droits humains. Il a également collaboré avec Amnesty pour défendre les droits des personnes LGBT et soutenu la campagne de l'organisation contre la peine de mort, faisant pression sur les pays qui maintenaient ce châtiment afin qu'ils renoncent à cette pratique cruelle et inhumaine. L'archevêque Desmond Tutu lègue un héritage remarquable en termes de droits humains et c'est à nous de continuer là où il s'est arrêté, d'exiger davantage de nos gouvernements et de créer des sociétés respectueuses des droits humains. Voilà, donc un rappel.
Oui, c'était effectivement tout à fait normal de lui consacrer ce petit hommage. C'était quelqu'un qui a beaucoup combattu à nos côtés. Sans transition, comme on dit toujours dans les médias, il y a Claire Lise qui voulait vous parler d'une autre information qui concerne, je crois, la Russie.
Eh bien, je vais vous parler, aujourd'hui, je vous parle beaucoup des autres organisations non gouvernementales. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Médecins sans frontières. Là, je vais vous parler de l'ONG Historique Mémorial, qui malheureusement vient d'être dissoute par les autorités russes. Donc après 30 ans d'existence, l'ONG Mémorial était un pilier dans la défense des droits humains. La Cour suprême russe a ordonné sa liquidation. Et c'est une décision honteuse. Le verdict est tombé le 28 décembre. L'ONG Mémorial ne sera plus. Cette fermeture d'une ONG emblématique en Russie est une attaque directe contre les droits à la liberté d'expression et d'association. Dès le lendemain, le 29 décembre, la justice russe a liquidé son organisation sœur, le Centre Mémorial de Défense des Droits Humains. En liquidant l'ONG Mémorial et son Centre de Défense des Droits Humains, les autorités russes poursuivent leur inlassable répression de la société civile. Donc, fondée en 1989, notamment par le prix Nobel Andrei Sakharov, Mémorial International était une des organisations de la société civile les plus respectées de Russie. Quant au Centre de défense des droits humains de Mémorial, il avait été fondé en 1991. Le cœur de mission de Mémorial était de préserver la mémoire des victimes des violations des droits humains durant la période soviétique. L'ONG a travaillé pour documenter la répression politique et les atrocités perpétrées sous le régime de Joseph Staline et d'autres dirigeants soviétiques. Mémorial a compilé la plus grande base de données sur les victimes de persécutions politiques de cette époque. En fermant Mémorial, les autorités russes piétinent la mémoire des millions de victimes du goulag. Donc, la directrice d'Amnesty International Europe et Asie centrale, Marie Strugsters, a pris la parole et annonce aussi que les procureurs ont affirmé que Mémorial avait violé à plusieurs reprises la loi sur les agents de l'étranger. Concrètement, cette loi oblige toute organisation russe bénéficiant de financements en provenance de l'étranger et qui ont des activités pouvant être considérées comme politiques, d'inscrire sur ses publications la mention « agent de l'étranger ». Donc, Mémorial avait été porté au registre des agents de l'étranger en 2016 et est ainsi accusé d'avoir omis régulièrement d'indiquer cette mention dans ses publications. Voilà. Donc, en Russie, cette loi est en réalité utilisée comme une arme pour réduire au silence les critiques du Kremlin et ainsi que les voix indépendantes. Donc, la dissolution de Mémorial montre la détermination des autorités à mettre fin au travail sur les droits humains en Russie. On y voit la main de notre ami Poutine.
En gros, on peut dire ça. Et ce qui est remarquable, c'est que cette notion d'agent de l'étranger, qui est extrêmement perverse, on la retrouve aussi dans d'autres pays. La Hongrie l'utilise, et c'est pourtant un pays qui fait partie de l'Union européenne. Et de mémoire aussi, c'est utilisé en Philippines, c'est utilisé aussi, je crois, en Inde, c'est même sûr que c'est utilisé en Inde, enfin, etc. Et c'est bien pratique pour faire taire les gens, de leur dire effectivement que ce sont des agents de l'étranger.
Donc nous appelons à ce que ces décisions soient annulées dans les plus brefs délais. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà demandé à Moscou de suspendre la décision de dissoudre Mémorial. Bon, on se doute bien qu'ils ne vont pas suivre les demandes de la Cour européenne. Et en Russie, les libertés ne cessent de reculer. Et en fermant Mémorial et son organisation sœur, les autorités montrent leur détermination à mettre fin au travail de défense des droits humains en Russie. Et plus que jamais, nous continuerons d'alerter sur la situation des droits humains en Russie et de soutenir celles et ceux qui défendent les libertés. Voilà. Ça, c'était la déclaration de la représentante d'Amnesty.
Ouais, et se dire aussi que bon, Mémorial, c'est vrai que ça nous fait un choc, sa dissolution, mais aussi toute la base de données dont tu parlais, de son organisation. Et ça, bah, ça va permettre à Poutine de réécrire l'histoire aussi de façon...
Oui,
ils aiment bien hein,
sympathique.
Ce genre de...
Oui, tout à fait. Mais
parce que ça, c'est important.
D'après des informations qu'on a aussi par d'autres médias, pas forcément d'ailleurs uniquement Amnesty, mais la société civile russe n'est pas aussi unanimement derrière Poutine que ce qu'on peut imaginer.
Ils ont de plus en plus de mal de le dire.
Ils ont de plus en plus de mal de le dire, effectivement, et notre ami Poutine est obligé de ouvrait les urnes pour se faire réélire, et c'est ce qui s'est passé la dernière fois.
Il fait des choses à l'étranger, puis il montre à son peuple que c'est beau ce qu'il fait.
Mais voilà, mais je pense qu'il y a aussi une contestation interne, et qu'il y a peut-être des choses qui vont nous surprendre dans les années qui viennent. Voilà, on va...
Alors à toi,
tic-tac. Tic-tac, on va se quitter. Notre ami Manu est arrivé pour prendre la suite avec le laboratoire, comme tous les mardis.
Et des donc, petites nouvelles,
on a, juste nos rendez-vous, effectivement. Alors, je ressors le petit papier. C'est des rendez-vous essentiellement radiophoniques qu'on va vous donner. Donc, on se retrouve, nous, pour la prochaine émission d'Amnesty le mardi 25 à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et deux jours après, on se retrouve aussi pour une nouvelle émission Fréquence Droits Humains, le jeudi 27. Et qui, l'émission aura lieu de 18h à 19h30. Donc deux rendez-vous radio dans la même semaine, celle de la dernière semaine du mois de janvier. Et la veille, donc on aura une semaine très chargée, le 26, on est partenaire du concert de Kerry James au théâtre, organisé par nos amis du Tangram. On est partenaire effectivement à ce concert. Et que, bon, petite information, si vous voulez prendre des places et que vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous, parce que d'après ce que j'ai pu savoir, il n'en reste pas beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est Clairlys qui fait bouger le plastique de protection des micros. Voilà. Donc, on se quitte. On vous rappelle donc les rendez-vous radiophoniques le 25 pour l'émission Amnesty, mardi 25, le jeudi 27 pour l'émission Fréquence Droits Humains. Et le mardi 26, on est partenaire au théâtre avec le Tangram.
Eh bien.
Un petit mot pour dire au revoir aux auditeurs, aux auditrices.
Eh bien, au revoir. Ça, c'est le bon mot.
Au revoir avec mon petit mot de plastique.
C'est ça.
Oui, voilà, on va le faire en même temps. Allez, on y va. Au revoir.
Donc voilà, non, c'est pas un son très agréable. Donc voilà, rendez-vous le 25 autour de l'antenne de Principe Actif.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.